Merci très chaleureusement au directeur de l'Institut Michel Videt, à Olivier Baud de cette invitation. Il y a 2 ans, j'avais partagé l'honneur d'être invité pour présenter à l'Institut Michel Videt cette grande aventure collective qui était le dictionnaire historique des juristes, et aujourd'hui pour présenter cette aventure individuelle qu'est l'ouvrage intitulé « L'état de justice France 13-20e siècle » qui est sorti des presses il y a tout juste 2 mois. C'est une double récompense, une belle récompense et bien sûr un moment marquant que cette invitation, cette double invitation, et un encouragement surtout. Alors merci vraiment de tout cœur. Alors, cet ouvrage est intitulé L'état de justice France 13e-20e siècle. Aujourd'hui, je ne suis en mesure que de parler que de la première moitié de l'ouvrage, que du tome 1, l'idéologie de la magistrature ancienne. Le titre général, l'état de justice, France 13e-20e siècle, indique que j'ai présenté un essai sur la longue durée historique. 8 siècles, 13e, 20e siècle. Ce qui me conduit à préciser en liminaire 2 ou 3 choses auxquelles je tiens. La première, c'est que je n'ai pu mener à bien cet essai que grâce aux importantes et successives études que les historiens produisent sur la justice, et notamment les historiens du droit, depuis quelques années. Je m'inscris donc dans un courant historiographique. Je suis redevable à beaucoup d'auteurs, beaucoup de collègues, de ce qu'ils ont écrit. Et je suis très heureux de la présence aujourd'hui de 2 collègues, Marie-France Renouz-Agamé et François Saint-Bonnet, qui sont bien représentatifs de la vitalité, je n'hésite pas à le dire, de l'histoire du droit, de la pensée juridique et politique en France, dans les facultés juridiques françaises. Si j'ai tenté de travailler de proposer un livre sur la longue durée historique, c'est que mon espoir, c'est que ce livre chemine au-delà du public des historiens, c'est que j'ai espoir qu'il intéresse les juristes contemporanéistes, si mal qualifiés de positivistes, et bien sûr les universitaires spécialistes de la justice contemporaine, mais aussi, là c'est pas de l'espoir, c'est de l'ambition, mais aussi les praticiens, les magistrats peut-être. Il me semble que les magistrats n'aiment pas beaucoup qu'on se mêle de leurs affaires, mais j'espère qu'ils s'aperçoiront dans ce livre que je les aime beaucoup, hein, que je leur veux beaucoup de bien. Et aussi l'ambition d'intéresser des avocats, et en particulier tous ceux qui interviennent depuis de longues années par des ouvrages critiques, des critiques des heurts et des malheurs de la magistrature, enfin de notre justice contemporaine. C'est dire combien je me félicite aussi très vivement de la présence de Loïc Cadier et de Maître Daniel Soulez-la-Rivière ici pour discuter de ce livre. Enfin, la troisième chose que je voudrais exprimer brièvement, avec un peu d'hésitation, mais tout de même j'y tiens, c'est que ce livre voudrait témoigner qu'un historien du droit qui, pendant très longtemps, n'a travaillé que sur le Moyen-Âge, peut donner un point de vue, peut prendre position sur une question politiquement brûlante, idéologiquement brûlante aussi, hein, la place, le rôle de la justice dans notre république libérale et encore profondément marquée de l'idéal démocratique. Et peut-être aussi donner quelques points de vue sur l'avenir, hein, sur l'avenir de cette justice. En cela, je m'efforce de suivre l'exemple de Pierre Legendre, et je dois dire que l'exemple de Yann Thomas m'a également beaucoup incité à m'aventurer, comme on dit, sur des terrains qui ne sont pas les miens, qui ne sont pas ceux de ma spécialité d'origine. Alors, ceci étant dit, confié, pour entrer dans le vif du sujet, pour réfléchir au rôle de la justice, au fond à ce qu'est la justice aujourd'hui et au rôle de la justice, il m'a semblé indispensable, préalablement, dans un tome 1, de procéder à une sorte de plongée aussi profonde que possible, dans ce que j'appelle l'idéologie de la magistrature ancienne. Alors, je sais bien que ce terme est souvent contesté. Qu'est-ce que vous entendez par idéologie? Bien, pour moi, l'idéologie, c'est très simple, hein. C'est un ensemble de savoirs et de convictions qui prêtent, qui poussent à l'action, qui meut l'action des intéressés. Ça n'est rien d'autre. Ce n'est pas de la superstructure. L'idéologie, c'est quelque chose de pensé et d'actif. Donc, scruter l'idéologie de la magistrature ancienne, ancienne, c'est-à-dire à partir du moment où naît une justice d'État en France au XIIIe siècle. Voilà le point de départ. Alors, cet État, chez nous, en France, même s'il prend une tournure administrative, financière, technocratique, à partir, disons, de Colbert, cet État est dominé, reste dominé jusqu'à la Révolution, d'une part par l'idéal de justice, et d'autre part par la médiation sur le terrain des magistrats, des cours, des tribunaux. Ce qui complique la tâche, évidemment, des dirigeants. L'État monarchique a été, je crois, justement qualifié d'État de justice. L'État monarchique, c'est un État de justice. Et quand les monarques, les ministres, le Conseil du roi ont vu les choses autrement et ont commencé de gouverner en se passant de la médiation des juges, et ils ont subi en retour immédiatement l'opposition massive des juges, des gens de justice. Et ils ont vu assez rapidement leurs élites judiciaires résister à leurs ordres et même bloquer, on voit bien au XVIIIe siècle, bloquer la machine de l'État. Donc l'État absolutiste, l'absolutisme bourbonien, est mort pour s'en être pris à l'état de justice. C'est une chose bien connue, enfin assez bien connue. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Voilà, voilà ce qui a motivé ma réflexion. Que voit-on aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on voit que l'état de droit, cette belle philosophie, belle conception de l'État née en Allemagne au XIXe siècle, belle théorie, cette belle construction de l'état de droit a triomphé au XXe siècle, dans beaucoup de pays occidentaux, dans les nôtres. Et on voit que ce qu'on appelle l'état de droit a propulsé sur la scène, au-devant de la scène sociale et politique, le juge, hein, le juge, la figure du juge, hein, le juge judiciaire, administratif, constitutionnel et bien sûr européen. Et donc ce que je voudrais m'attacher à montrer dans ces deux tomes, et déjà un petit peu en préalable dans le premier, c'est que l'état de droit dans lequel nous nous mouvons aujourd'hui, c'est un état de justice. Plutôt, nous sommes dans un état de droit et de justice, hein, puisque l'état de droit ne fonctionne pas sans les juges. Et donc, c'est une révolution au sens copernicien du terme, c'est un retour en arrière, un formidable retour en arrière, qui était inattendu, auquel on n'était pas préparé, enfin, nos esprits, de manière générale, n'étaient pas préparés. Alors, comme citoyen, bien sûr, comme juriste aussi, je me félicite de ce retour de l'état de justice. J'apprécie que les juges soient aujourd'hui les gardiens des promesses de la démocratie, pour emprunter l'expression à Antoine Garapon. Je me réjouis, comme citoyen, que le tiers-pouvoir, expression de Denis Salas, soit, me semble-t-il, devenu le premier. En tout cas, il a dépassé les deux autres. Mais comme historien, je m'inquiète et je me pose la question, est-ce que cet état de justice actuel ne va-t-il pas subir le même sort que son prédécesseur? Ne risque-t-il pas d'être englouti? Je m'inquiète parce que on voit bien que les politiques, tout particulièrement les politiques, ne se font pas au phénomène dit de montée en puissance de la justice. Et on voit encore ces jours-ci que le bras de fer est largement entamé, hein, commencé, entre la magistrature et la représentation nationale, hein, et les dirigeants. Alors, est-ce que la République va s'en sortir mieux que la monarchie? Voilà ce qui m'inquiète. Et je voudrais bien, comme Daniel Soulas-de-la-Rivière, que la justice connaisse son grand soir. J'aimerais bien que tout soit mis en œuvre dans la Constitution, dans les codes, dans les lois, pour que soient reconnues les fonctions et la finalité suprême de la justice. Et j'aimerais bien qu'un jour, les politiques organisent et garantissent un système justicier insoupçonnable, impartial, inattaquable, et se préoccupent de sa légitimité. Mais je ne suis pas optimiste. Je ne suis pas optimiste parce que je pense que notre esprit français n'était pas préparé, ne souhaite pas une assomption de la justice, pas plus la République que le roi. Alors c'est pourquoi j'ai écrit ce livre. L'État a été bâti en France avec des institutions, hein, mais c'est l'état de justice, ce fut également une construction intellectuelle et spirituelle. Et les mieux placés pour parler des missions de la justice, de ses difficultés face au pouvoir, ceux qui ont le mieux témoigné de cette question jusqu'à la Révolution, ce sont les magistrats. Ce sont les magistrats et avec eux les gens du palais. Beaucoup d'avocats, notamment. Alors dans ce tome premier, il m'a paru nécessaire, en préalable, de donner la parole aux magistrats, génération de magistrats qui sont succédés du XIIIe siècle à la Révolution, de les laisser parler, parce qu'aujourd'hui, en comparaison, les magistrats s'expriment très peu. Ils s'expriment très peu. Lorsqu'ils s'expriment, leur langue, qui est celle des juristes d'aujourd'hui, est une langue plate, qui a perdu le goût des métaphores, le culte des autorités, le goût des citations, ces références savantes. Donc, il n'y a plus de Doma, c'est sûr, il n'y a plus de Dagesso aujourd'hui. Et les juges n'écrivent plus de traités politiques, de commentaires juridiques, ils ne prononcent plus ou peu de harangues, et ils ne font plus de remontrances. Et pourtant, ils exercent le même métier, bien sûr. Et pourtant, juger consiste toujours à exercer la même responsabilité, à fixer les valeurs, le bien et le mal, et à appliquer, à faire une application réelle des droits, des libertés, des constitutions, des lois, des décrets. Alors, est-ce que ce qu'ont écrit les magistrats d'autrefois et que je présente ici, dans ce tome 1, est-ce que cela est susceptible de nous éclairer sur l'idéologie informulée ou mal formulée des magistrats d'aujourd'hui? J'espère que oui. Est-ce que ce qu'ont écrit les magistrats d'autrefois, qui ont été des agents de la justice, des officiers de la justice, mais en même temps des penseurs de la justice, est-ce qu'ils ont écrit pour nous aider à considérer avec un peu plus d'indulgence, de compréhension, ou même à accepter finalement cette idée que la justice transcende le pouvoir politique et qu'elle le transcendra certainement toujours? Et puis, est-ce que ce panorama des rapports de la magistrature et du pouvoir que je dresse ici, est-ce que ce panorama ne peut pas nous mettre en garde aussi contre une justice qui évoluerait aujourd'hui comme hier, sur un mode oligarchique, c'est-à-dire coupé de toute responsabilité vis-à-vis des justiciables? Eh bien, à toutes ces questions, ce tome 1 a la prétention d'apporter des réponses affirmatives. Mais enfin, c'est une prétention. Donc, je suis vraiment très heureux, et j'en remercie encore Olivier Beau, que ces prétentions soient soumises à discussion.